Je vais vous parler d'une bataille qui n'a jamais eu lieu et qui pourtant s'est soldée par une victoire. Et comme d'habitude, j'aime bien commencer par un peu de botanique. Vous connaissez ces fleurs ? Il y en a beaucoup hein, dans le sud, dans la région. Alors j'ai toujours cru que c'était des daturas. Eh bien non, ce sont des brugmansia.
C'est ce que j'aurais dit.
C'est ce que j'aurais dit. Et j'ai toujours cru que c'était les trompettes de Jéricho. Eh bien non, parce que les trompettes de Jéricho, c'est la bignonne en fait. C'est elle qui a le surnom. Et donc, vous avez compris, je vais vous parler de la bataille de Jéricho. Bataille de Jéricho, entre guillemets, car bataille, il n'y a pas eu. Mais néanmoins, il y a eu une magnifique victoire. Et cette victoire, elle a été obtenue parce que le peuple était là. Et ce succès repose sur beaucoup d'éléments qu'on va examiner un petit peu pour voir justement quelles sont les clés d'un succès qui n'était pas du tout évident. Donc cette fameuse bataille de Jéricho est racontée dans le livre de Josué. À partir de la fin du chapitre 5, voilà très rapidement résumé les thèmes abordés dans les précédents chapitres. Hein. Josué 1, donc Josué est décrit et annoncé comme le successeur de Moïse. Puis, dans le deuxième chapitre, déjà, il y a une reconnaissance de la ville de Jéricho, à laquelle Josué participe. Chapitre 3, c'est la traversée du Jourdain, que l'on connaît bien. Chapitre 4, après avoir traversé, eh bien, ils font ce mémorial, hein, ils déposent 12 pierres correspondant aux 12 tribus pour manifester la reconnaissance envers Dieu qui leur a permis d'aller toujours un peu plus loin. Et dans le chapitre 5, au début du chapitre 5, le Seigneur demande à nouveau de pratiquer la circoncision qui avait été un petit peu éloignée, oubliée. Et ils célèbrent la Pâque au moment de la fin de la manne. La Pâque étant reconnaissance envers le Seigneur. Puisque vous savez que la première Pâque, Pessah, comme nous l'avons écouté il y a 2 ans maintenant, qui veut dire passage, hein, correspond au moment où le Seigneur a préservé tous les nouveau-nés du peuple d'Israël. Et cette bataille de Jéricho, elle est décrite à la fin du chapitre 13 et dans une bonne partie du chapitre 5, et une bonne partie du chapitre 6. Alors on va lire ensemble, c'est relativement long, mais toujours utile de bien comprendre ce qui est écrit. À partir du verset 13 du chapitre 5. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Noun, appela les sacrificateurs et leur dit : Portez l'arche de l'Alliance et que sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple : Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les sept trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Ça, c'est pas la trompette de Jéricho. C'est une trompette gauloise. Vous voyez un peu la taille. On peut imaginer que les trompettes de Jéricho étaient aussi un peu dans ce style-là, faisant un bruit énorme et avec un aspect vraiment très impressionnant. J'ai pensé à ça parce que la semaine dernière, il y avait un reportage sur les Gaulois. Et ils ont découvert une trompette comme ça. C'est la première qui a été découverte et ils ont pu la reconstituer. Et sonner de la trompette. Il y a une gueule de monstre en haut. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez les cris, alors vous pousserez les cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent le bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. À la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez les cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent les trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Donc ce récit est long, certes, mais montre que tout est dirigé par l'Éternel et que le peuple obéit, ce qui est la condition de la victoire. Et ce peuple est conduit par Josué. On a vu que Josué, c'était l'assistant de Moïse, dès qu'il est arrivé en Israël, et son vrai nom, c'est Hoshéa, en hébreu. Et parfois, on rajoute devant une petite lettre qui ressemble à un Y. C'est pas un I hébreu, mais un Y. Et ça fait Yehoshéa. Ça vous rappelle quelque chose? Yeshua. Donc, Hoshéa veut dire aussi Dieu sauve. Josué était un des 12 espions qui avait été envoyé pour reconnaître le pays de Canaan. Et lui, avec Caleb, il avait dit, il faut y aller. Il n'avait pas vu les géants, lui. Plutôt, il avait vu des hommes normaux. Mais les autres ont dit qu'ils avaient vu des géants, donc vous savez la suite. Et pourtant, il a vraiment essayé de convaincre le peuple de se lancer à la conquête de ce pays. Le peuple n'était pas d'accord, mais lorsque Dieu l'a décidé, eh bien, ça s'est fait, parce que Dieu a conduit. Et effectivement, Josué, qui était un chef de guerre, avait déjà mené des batailles à la tête de ses troupes. Et il était aussi proche de Dieu, tout près de lui, de même que Moïse, puisqu'il l'a accompagné à la rencontre de Dieu sur le mont Sinaï, et il était dans la tente lorsque Dieu est apparu et lorsqu'ils se sont entretenus avec lui. Donc Josué était un homme, certes, chef de guerre, mais un homme près de Dieu, un homme dans le cœur de Dieu, comme il est dit des nôtres. Et face à eux, il y a cette ville de Jéricho que le Seigneur leur annonce comme étant pour eux. Ils vont la prendre, ils vont s'en emparer. Cette ville de Jéricho avait quelques particularités qui étaient très intéressantes sur un plan stratégique, puisqu'elle est proche du Jourdain, donc il y a de l'eau à proximité, elle est alimentée en eau, mais elle est aussi entourée de très grandes murailles. Mais néanmoins, comme elle est à l'entrée du pays promis, c'était intéressant de pouvoir la prendre. Vous voyez, sur les cartes, Jéricho est là, le Jourdain, la mer Morte. Et elle avait une double enceinte de murailles, ce qui la rendait effectivement particulièrement difficile à prendre, d'autant plus qu'elle était tout à fait en hauteur. Vous pouvez imaginer, ça c'est une photo actuelle, avec un monastère qui est là, mais vous pouvez imaginer que Jéricho là-haut, ben, quand il s'agit d'aller grimper dans d'autres circonstances, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Français devaient grimper les falaises en Normandie pour essayer d'aller déloger les Allemands qui étaient dans leur bunker, on sait quelles ont été les conséquences. Hein, ils étaient des cibles parfaites de ceux qui étaient en haut. Et là, on peut penser aussi que les Israéliens qui essayaient de prendre Jéricho auraient été des cibles absolument parfaites pour ceux qui étaient dans la ville de Jéricho. Mais il nous est bien dit qu'ils étaient enfermés et que personne ne sortait. Et déjà là, c'est la main de Dieu qui était là, qui empêchait les habitants de Jéricho de sortir de leur ville pour aller contrer les Israélites menés par Josué. Et donc je vous l'ai dit au début, dans ce passage, il y a beaucoup de phrases, beaucoup de mots, beaucoup d'indications qui peuvent être rassemblées sous un mot générique, les clés du succès. Les clés du succès que l'on peut mettre sous le nom d'obéissance, d'écoute, de fidélité, mais aussi d'action, parce que Dieu nous demande certes de l'écouter, mais il faut aussi agir, parce que si on se contente d'écouter et de rester assis, bon, Dieu peut faire tout seul, mais il aime, il a besoin, il a envie de nous rendre participants. Une de ses premières clés du succès, c'est l'écoute. Au verset 2 du chapitre 6, l'Éternel dit à Josué, « Vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. » L'Éternel dit, et quand l'Éternel parle, eh bien, Josué a écouté. parce que sinon, il n'y serait pas allé. Au chapitre 5, au verset 13, Josué, il était près de Jéricho, nous est-il dit. Il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Donc Josué était là, face à Jéricho. A priori, il n'avait pas l'intention d'attaquer. Parce que quand il voit cette montagne, cette ville en haut, ces murailles, il se dit, « Oulala, est-ce qu'on va prendre une déculottée, comme on dit vulgairement, si on y va ?» Donc il lui fallait un ordre de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué. Et c'est la seule condition à laquelle Josué a répondu pour y aller. Mais il a répondu parce qu'il a écouté. Il n'a pas simplement eu une vague notion de ce que disait Dieu, mais il a écouté. Et pour nous, est-ce que nous savons aussi écouter? C'est tellement facile d'entendre et de ne pas écouter. On entend le bruit des oiseaux, ça c'est charmant. On entend le bruit des voitures, c'est plus déplaisant. Quand on est dans notre appartement à Toulon, c'est vrai qu'on préfère entendre le silence de la route Bossane et les oiseaux qui nous réveillent plutôt que le bruit des voitures qui passent sur le boulevard à côté. Mais écouter, c'est bien autre chose. Écouter, c'est prendre en considération ce qu'on entend, l'analyser et éventuellement en tirer des conclusions. Et là, j'espère que vous m'écoutez, que vous ne faites pas que m'entendre. Mais je le reconnais, lorsqu'on est auditeur, quand on sort du culte, on se demande même parfois quel est le titre du message. Parce qu'on n'a pas écouté attentivement. Je suis comme vous, hein, rassurez-vous. Je n'ai pas cette prétention. Et donc, l'écoute est une des clés du succès. Parce que lorsqu'on écoute, eh bien, on comprend les ordres. Si on ne fait qu'entendre, bon, ça passe de là à là, et ça ne descend pas, ou ça ne monte pas plutôt jusqu'à notre esprit. Alors que si on écoute, on analyse ce qui est dit, et ensuite, on peut faire. Deuxième clé du succès, la patience. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois. Ouf, une fois, c'est bon. Tu feras ainsi pendant 6 jours, donc ça fait 6 fois. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du cor. 13 fois le tour de la ville. Et sans rien faire, sans attaquer, sonner du cor. Tout simplement, si j'ose dire. Ça aussi, ça apprend la patience. Parce que Dieu a dit à Josué, je te donne Jéricho. Mais avant de l'avoir, 13 fois, avec les armées, avec ton peuple, tu vas faire le tour de la ville. Nous, on le dit souvent, c'est vrai, dans une civilisation de l'instantané, hein, on aime bien que ça arrive tout de suite. Le mail. Ah, il n'est pas arrivé, là. 3 secondes. Et s'il arrive le lendemain, alors c'est une catastrophe. Mais Jean-Pierre nous a rappelé que Dieu sait faire des miracles et qu'il envoie les choses avant, alors même qu'on les attendait pas. Et donc, il n'a pas eu besoin de s'exercer à la patience. Il s'apprêtait à piétiner un peu, voilà, le Seigneur connaît. Mais là, le Seigneur a exercé la patience. Alors que il n'y avait personne, puisque tous les gens étaient, enfin, il n'y avait personne de visible, tous les gens étaient cloîtrés dans leur ville, ne sortant pas, car ils avaient peur. Donc on pourrait se dire, ben ça y est, c'est bon, on va y aller tout de suite, dès le premier jour, on aura la victoire. Ben non. Le Seigneur leur a demandé de faire 6 fois plus 7, 13 fois le tour de la ville, pour exercer leur patience, exercer leur obéissance aussi. Et c'est vrai que c'est étrange de demander à une armée à qui on a promis de donner une ville, simplement de faire le tour. Et le Seigneur peut aussi parfois nous demander des choses un peu bizarres. Exerçant notre patience, nous demandant de... Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais est-ce que on a déjà vécu ça? Sûrement. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a agi ou est-ce qu'on a attendu et patienté que le Seigneur réponde? L'un des exemples bien connus de la parole, c'est Abraham. Dieu lui avait promis une descendance, mais ça ne venait pas assez vite. Et donc Sarah, il a dit, écoute, tu vas avoir la servante. Ils ont pu pouvoir devancer le plan de Dieu. Physiquement, oui, ça s'est fait, puisque Sarah, la servante a été enceinte, mais ce n'était pas Agar, merci. Elle, vous savez qu'elle apprend la langue des sourds, hein, donc, c'est pour ça que j'ai compris. Et donc, voilà. Dieu parfois peut nous demander des choses étonnantes, où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. C'est long, on s'impatiente, mais n'essayons pas d'agir à l'avance, parce qu'on est certain de se tromper. Donc cette patience que le peuple a exercée, a expérimentée, eh bien nous aussi, nous devons l'expérimenter, nous devons l'apprendre. Troisième clé du succès, la confiance. Avoir confiance en notre Seigneur. Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple. Les sept sacrificateurs qui portaient les sept corps de bélier devant l'Éternel passèrent et sonnèrent du cor, l'arche de l'Alliance les suivait. Est-ce que ce n'est pas un petit peu étonnant d'aller à la guerre et d'avoir simplement des sacrificateurs avec des corps qui font, non pas de la musique, qui font du bruit. Et les guerriers qui sont derrière, ils n'ont rien à faire. Ils ont leurs armes, certes, mais c'est les sacrificateurs qui mènent la danse, qui mènent la bataille. Pourquoi? Eh bien, parce que Josué a cru, a écouté ce que le Seigneur lui a dit. Il a répété au peuple. Et Josué, qui croyait ce que Dieu lui avait dit, « Je vais te donner Jéricho », a transmis cette certitude au peuple qui lui a fait confiance. De même que Josué a eu confiance en la parole de l'Éternel, le peuple a eu confiance parce qu'il savait que Josué avait reçu cette certitude de la part de Dieu. Et le succès de la bataille dépend effectivement de la confiance que le peuple a mise dans les paroles de l'Éternel, retransmises par Josué sous forme d'ordre. Et nous, est-ce que nous avons aussi confiance? Est-ce que nous faisons confiance à notre Seigneur? La définition du mot confiance, on la connaît bien. C'est l'assurance qu'on peut se fier à quelqu'un. Vous connaissez tous, bien sûr, Hébreux. Dans le premier verset du chapitre 11, il est dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Parce que la confiance en Dieu, c'est la foi. C'est la même racine. Avoir foi, c'est avoir confiance. Quand on dit à quelqu'un « J'ai foi en toi », c'est-à-dire qu'on lui fait confiance. Et donc si on a foi en notre Seigneur, on lui fait confiance pour diriger nos vies, pour toutes nos circonstances. Ça conduit parfois, comme on l'a vu tout à l'heure, à exercer notre patience. Parce qu'on voudrait bien que ça arrive plus vite. Mais mettre notre foi, notre confiance en action, eh bien, c'est aussi l'assurance que l'on aura la victoire. la victoire dans différentes circonstances. Autre clé du succès, après l'écoute, la patience, la confiance, l'obéissance. Le septième jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre, sept fois. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. Alors, à la septième fois, les sacrificateurs sonnèrent du cor et Josué dit au peuple : poussez les clameurs, car l'Éternel vous a donné la ville. Ils ont obéi, le Seigneur a été fidèle. Il a accompli ce qu'il avait promis, il leur a donné la ville. Et quand on relit la parole, le fait de sonner du cor correspondait justement à l'annonce de la victoire. Dans le livre des Nombres, au chapitre 10, au verset 9, on lit « Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'adversaire qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Vous serez rappelés au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez sauvés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos solennités et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices de communion et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Les trompettes qui sonnent signent la victoire, comme cela a été enseigné au peuple. Et en mettant en action ce que Dieu leur demandait, eh bien, l'histoire est allée jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et donc, nous aussi, nous devons être confiants après avoir écouté, être patients et être obéissant. Et est-ce que nous avons bien cette conscience de la nécessité de l'obéissance? Si Marie-Jo était là, ici, peut-être qu'elle parlerait de la France insoumise. C'est quand même étonnant, ça. Monter un parti qui prétend arriver au pouvoir en disant « je suis un insoumis ». Et donc, que va faire le peuple? Ben, il va être insoumis. Donc, c'est l'inverse de l'obéissance. Et c'est vrai que, de plus en plus, on a le refus de l'autorité dans notre civilisation. On voit bien tout ce qui est dit, la façon dont les gens parlent de leur président. Ils l'ont peut-être pas élu, mais c'est le président, c'est une autorité. Et on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on a le respect et on a une obéissance vis-à-vis de ce qui est dit. On ne va pas faire de politique, c'est écrit dans nos statuts, on ne fait pas de politique dans nos églises, mais l'obéissance. Et par conséquent, lorsqu'il s'agit d'obéissance à la parole de Dieu, là, il n'y a pas de discussion possible. Et donc, cette obéissance est vraiment une de nos priorités, doit être une de nos priorités. Toujours dans le livre de Josué, au premier chapitre, un passage qu'on connaît bien, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu y réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Fortifie-toi et bon courage. Oh, merci Seigneur. Tu me donnes du courage, je vais y aller. Mais il y a le reste du verset. Respecte, obéis à ce qui est écrit. Il ne s'agit pas d'aller comme ça, la fleur au fusil, et de se dire, c'est bon, Dieu est avec moi. Mais non, si on n'obéit pas, si il s'était arrêté au sixième jour, la victoire n'aurait pas été acquise. Et Jéricho ne serait pas tombé. L'obéissance va jusqu'au bout. Et elle doit aller jusqu'au bout. Lorsque le Seigneur nous demande quelque chose. Et cette obéissance, elle va aussi au-delà. Et là, je reconnais, c'est Julien qui a développé un peu plus en disant, il y a l'obéissance et il y a en plus l'obéissance totale. Qu'est-ce qui est dit à la fin du passage que l'on a lu ? Attention, gardez-vous de l'interdit. De peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez de ce qui est interdit et ne mettiez ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si vous lisez le chapitre 7, vous verrez la faute d'Acan, qui a pris de ce qui était voué à l'interdit, qui n'a pas obéi jusqu'au bout à ce que le Seigneur demandait. Ils avaient obéi pour avoir la victoire, mais il y en a un qui se dit, oh, allez, va, c'est pas grave, il y a un petit peu d'objet, un petit peu d'or qui traîne, je vais le prendre. Parce que c'est nous les vainqueurs. Et le Seigneur a dit, non, rien de ce qui est interdit ne doit être touché. Et la conséquence, ça a été la mort. Donc l'obéissance doit aller jusqu'au bout. Et lorsqu'on a remporté une victoire, n'oublions pas qui nous a donné cette victoire. Peut-être que c'est par nos mains que nous avons fait quelque chose. Mais Dieu nous a aidés. Et donc l'obéissance doit aller jusqu'au bout. Écoute, patience, confiance, obéissance. Voilà quatre des clés du succès. Et le Seigneur veut nous donner des succès parce qu'il aime que ses enfants soient des vainqueurs. Mais il faut mettre tout ça en pratique. Amen. T'as pas amené ta trompette ?
Pas aujourd'hui, non. T'allais me dire.
Si on a vu le papier, t'as déjà marché.